Dans cette release de CPU, un store en monopole absolu, un procès épique, l'Europe et sa pomme, et Apple en fait une marmelade. Notre invité est Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer. L'équipe aujourd'hui, Infeset Grunt et Dascritch. J'espère que vous avez mis vos e-bidules sur silencieux. Bonjour Jérôme Alves.
Bonjour.
Bonjour Infeset Grunt.
Bonjour.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui adore ton smartphone et même un fan inconditionnel de sa marque. Regarde-le, ton smartphone. Un rectangle noir, lisse, quasi sans fractuosité, bouton ou trou. Un artefact d'une connaissance infinie. Un portal vers le monde. Un monolithe miniature. Un objet de culte digne du film 2001 l'Odyssée de l'espace par Stanley Kubrick. En 2007, on venait de loin. L'informatique de poche avait des touches. Même les assistants personnels à reconnaissance d'écriture, comme les Palm Pilot, les Pocket PC, certains Symbian ou le Feu Newton. La plupart des téléphones mobiles n'affichaient qu'en monochrome et grossièrement. Le Japon faisait rêver, avec des téléphones à clapet, nantis d'écrans couleurs et de sonneries polyphoniques, et qui pouvaient envoyer des photos par email, mais qui étaient inutilisables hors de l'archipel. Microsoft avait tenté le premier smartphone du nom, le SPV, qui était objectivement une brique. Des constructeurs tentaient de faire un téléphone mobile un accessoire de mode, de coûteux fashion phones en plastique cheap qui perdait sa peinture argentée à force de se mettre dans la poche ou dans son baise en ville. C'est pas un gros mot. Et un jour de janvier 2007, Steve Jobs, qui depuis 10 ans redressait Apple à coups d'iMac et d'iPod, annonce un nouveau iBidule, le premier ordinateur de poche entièrement tactile, fusion d'un player MP3, d'un navigateur web digne de ce nom et d'une application téléphone. L'iPhone va révolutionner le monde. Il va faire tomber de son piédestal la marque leader Nokia, marginaliser Microsoft de la téléphonie mobile, mettre le seum au WAP, forcer Google à prendre des raccourcis en créant Android et ringardiser les feature phones du Japon. D'ailleurs, le clamshell, ça n'est plus qu'un truc de vieux. De nos jours en téléphonie mobile, il n'y a plus que deux écosystèmes dominants, Android et Apple. Les univers mobiles spécifiques à Nokia, Motorola, Samsung, Tizen, Palm, BlackBerry, Windows, Firefox OS n'existent quasi plus. Et ces deux écosystèmes sont basés sur des religions antagonistes. Pour l'un, un système supposément libre que n'importe qui peut installer et qui va compléter en général avec la boîte à outils fournie par Google, qui est ouvert à la diversité, mais dont objectivement l'expérience utilisateur est trop foutraque pour qu'un individu lambda puisse aider un autre à s'y retrouver. Pour l'autre, un système intimement lié à une marque qui couvre du matériel jusqu'à la plateforme de distribution d'app. Un environnement qui ne peut exister que sur son matériel et un matériel qui ne supporte que son écosystème propre, mais où l'utilisateur n'aura quasi aucun souci en changeant de modèle parce que ça marche à tous les coups. Entre les deux univers, c'est une guerre froide. Regarde ce concepteur de logiciels tiers qui doit composer avec au moins une de ces deux plateformes infiniment moins ouverte que son ordinateur de dev. Regarde ce consommateur sommé de choisir une des deux chapelles ou de rester en GPRS. Consommateur qui peut objectivement se poser la question si, quand il a acheté un smartphone, il ne s'est pas emprisonné dans un camp, payant peut-être trop cher certains services. Et nous, ici, dans CPU, pendant cette heure, on va surtout parler d'Apple, car la mise en œuvre du règlement européen Digital Market Act va, pour une première fois, impacter Apple, les forçant à ouvrir leur plateforme 2 décennies après Microsoft, mais la plupart des remarques s'appliquent aussi au monde Android, malgré les précautions de Google. Car, enfant du futur immédiat, tu t'es acheté un ordinateur de poche avec la fonction téléphone, mais qui reste un matériel qui ne peut faire tourner que l'OS du fabricant. Bon, ok, soit. Un peu comme ta console de jeu. Un OS qui ne comporte qu'une seule source de logiciels, qui t'est imposée dès le démarrage. Une plateforme de téléchargement qui est toujours opérée par le fabricant et qui n'accepte que les logiciels qui n'utilisent que son système de paiement. et un fabricant qui peut aussi révoquer à tout moment les logiciels que tu as payés et les retirer de ton smartphone. Ce constat soulève une question morale. Es-tu encore propriétaire de quoi que ce soit dans ton smartphone ou de l'objet lui-même depuis le moment où tu as payé pour l'avoir ? Peux-tu le pimper facilement, sinon en mettant des gommettes dessus et un fond d'écran ? As-tu même la possibilité de développer un logiciel pour le partager à ton cercle d'amis dans la cour de récré, puisque pour qu'il le télécharge, tu dois passer par l'étape de dépôt dans le magasin et de certification par l'opérateur de la plateforme ? Ce n'est pas un problème d'architecture matérielle. Il est possible d'installer, au prix de très nombreux efforts, le système Android sur un iPhone, et avec autant d'efforts et de chances d'installer iOS sur certains Android. Pour être honnête, il y en a qui y arrivent, et ils ont du skill en hack pour y arriver, bien au-delà de l'art de tracer des pentacles dans le terminal en ASCII. Devoir passer par ces rituels contre nature montre une profonde perte de liberté sur ce matériel, puisque tu ne peux en faire ce que tu veux, parce qu'on te bride très volontairement les fonctions possibles. Le fabricant peut dire que ce contrôle des logiciels téléchargés a pour principal but d'assurer la sécurité et la vie privée de ses consommateurs. Il n'aura pas tort ? Du moins jusqu'à ce qu'on regarde dans les faits. Et on l'a vu dans une toute récente chronique de CPU intitulée Operation Triangulation, qu'Apple est plus rapide à patcher le moindre jailbreak qui pourrait fissurer son business model que réellement protéger la confidentialité de ses clients, laissant des failles activement exploitées par des dictatures peu soucieuses des droits humains. La question de la propriété immatérielle via ces plateformes s'était déjà publiquement posée en 2009 sur un e-book vendu par Amazon. Quand Amazon a révoqué cet e-book acheté, je dis bien acheté, pas loué par ses clients, c'est-à-dire que les clients ont acheté une licence perpétuelle pour consulter dans un usage familial l'œuvre littéraire en question dans le format e-book sur la plateforme Kindle d'Amazon. Et cette licence a été révoquée unilatéralement sans prévenir ses clients. Et, ô ironie, l'œuvre littéraire ainsi censurée était 1984 de George Orwell. Les problèmes générés par ce contrôle de la plateforme du constructeur, de sa mise en place d'une plateforme exclusive, a commencé à créer des peurs irrationnelles. Lors de la présentation de l'Apple Car, l'appairage des iPhones avec les systèmes multimédia de certaines voitures, un concessionnaire automobile, un brin farceur et auditeur fidèle de CPU m'a confié la blague suivante. Avec l'option Apple Car, le pneu sera collé et indémontable. Contrairement au monde des voitures compatibles où c'est le bordel car l'utilisateur doit choisir son type de pneu et apprendre à le changer quand il est défaillant. Alors que chez Apple Car, il te suffit d'aller en Apple Store voir le Genius qui te reprendra la voiture complète pour changer la roue. Fin de la blague. J'ai ri jaune. Car rien ne s'oppose à ce qu'elle devienne vraie. Et maintenant, enfant du futur immédiat, petite leçon de business. Vendre des smartphones se fait usuellement à perte, puisque, tout comme les consoles de jeux, c'est la marge sur les achats dans son App Store, la vente aux éditeurs d'une préinstallation, le choix du moteur de recherche préinstallé, la revente des données publicitaires, les autres achats depuis les apps qui rend la marge bénéficiaire. Sauf chez Apple, où il marche dès la vente du smartphone, grâce aux quantités écoulées, au catalogue réduit, aux économies d'échelle et le contrôle des canaux de vente. Allez, j'arrête mon moment de vieux grognon, c'était pas mieux avant. Avant l'arrivée de l'iPhone, les téléphones devaient être homologués par chaque opérateur mobile pour pouvoir être utilisés par son réseau. Cela voulait dire que les opérateurs mobiles avaient la possibilité de forcer les fabricants de téléphones à leur céder une commission sur les achats effectués dans le smartphone. Oui, il y a un point à rappeler. Il a existé des stores logiciels bien avant l'iTunes pour l'iPhone, en général pour des téléphones très haut de gamme. Par exemple, Nokia a proposé le store OVI. Et à l'époque, les opérateurs mobiles exigeaient que leur soit reversé 50% de chaque transaction si elle commençait depuis le téléphone et passait par leur réseau, ce que l'on appelle OTA, Over the Air. Un véritable enfer à mettre en place pour les constructeurs, puisque du coup, le magasin logiciel du fabricant devait se connecter au système de facturation de chaque opérateur, beaucoup d'efforts de développement logiciel pour une marge assez ridicule. 2007. Une décennie après le retrait du Newton, Apple a changé ça. L'iPhone était son premier coup réussi en informatique ultra mobile. La marque à la pomme a été adulée par ses fans, et les opérateurs mobiles n'avaient pas d'autre choix que de dérouler le tapis rouge au prophète Steve Jobs. Sinon, l'iPhone allait être disponible en exclusivité chez un concurrent qui allait leur pomper instantanément toute une clientèle CSP+. Et les opérateurs mobiles ne pouvaient rien dire pour leur taxe OTA. Fallait passer par l'iTunes App Store sur son ordinateur pour installer les apps sur iPhone, du moins au début. Apple avait réservé une autre surprise sur les modèles suivants. Les applications achetées sur un modèle d'iPhone étaient aussi acquises pour le modèle suivant, sous réserve de compatibilité. C'est-à-dire que tu n'avais pas à passer par des manipulations compliquées pour les transférer, il suffisait de les retélécharger depuis l'App Store sans avoir à les réacheter. Ce genre de détail, c'est ce qui a donné l'image consumer-friendly à Apple. Pauvre de nous. Si on savait. Le problème est que de nos jours, Apple n'a plus l'image bienveillante envers les utilisateurs, déployant une défense abusive de son précaré. C'est ce qui a motivé le DMA, Digital Market Act, un règlement européen pour redonner aux consommateurs des droits face à des géants technologiques. Des géants qui, par ailleurs, sont quasi tous américains ou chinois, et ne peuvent absolument pas se passer du plus grand marché unique ouvert sur Terre, le marché unique européen. Apple est impacté par le DMA sur de multiples points. Tiens. Prenons le cas du label MFI, Made for iPhone, qu'Apple vend assez cher à des constructeurs tiers. Jusqu'ici, l'iPhone ne disposait que d'une prise propriétaire, le Lightning, qu'il revendait très cher aux petites marques. L'Europe a exigé une prise USB dans l'appareil, à la fois pour stimuler la concurrence, réduire les déchets électroniques et réduire la facture du consommateur. Apple se retrouve obligé de se conformer, mais a créé unilatéralement son label perso MFI. Sans ce label, un câble USB même de qualité ne peut charger rapidement ou transférer de la donnée à très haut débit sur un iPhone, contrairement à un Android et surtout en contradiction avec la norme USB. Un comble quand on connaît la proportion des câbles Lightning made by Apple qui se détruisent trop facilement. Inutile de dire que la communauté européenne pourrait juger un tel bridage comme une insulte. Ou encore autre surprise d'Apple dans la dernière bêta d'iOS sortie début février destinée qu'à l'Europe. Les web apps ne fonctionnent plus. Une web app, c'est la possibilité de transformer un site web en icône disponible sur l'écran d'accueil en réduisant l'interface du navigateur web. Déjà que Safari est le navigateur qui respecte le moins les API standards W3C de ce type parce que justement les web apps permettent de se passer d'applications natives pour quasi tous les usages, Apple s'est justifié de cette disparition de fonction comme conséquence du DMA. Ouais, j'ai pas vu ça dans le règlement européen. Mon avis personnel est qu'Apple est actuellement dans la même situation que Microsoft il y a 20 ans, quand ils ont dû casser le couplage trop fort entre Internet Explorer et Windows, justement à cause d'une procédure européenne. À l'époque, la guerre menée par l'Europe contre le monopole d'Internet Explorer a été un gros gain de sécurité dans Windows. Et ça, on l'a oublié. Autre point reproché à Apple, mais plus aux États-Unis, l'iPhone est un objet marqueur social à cause de son prix, devenu moteur d'exclusion chez les enfants et les adolescents. Pour cela, il faut avoir utilisé l'application iMessage. Elle indique par la couleur de la bulle le type de smartphone de votre correspondant. Vert pour iPhone, bleu pour les autres. Donc souvent Android. Actuellement, dans nombre de collèges américains et sûrement ailleurs, dire d'un camarade qu'il est bleu est motif de raillerie. Ça aussi, ça lève des sourcils à Bruxelles. En plus du refus d'intégrer le standard de messagerie RCS dans iMessage. En fin du futur immédiat, lors de sa keynote de 2007 où il a présenté au monde ébahi son Jesus Phone, Steve Jobs a répondu aux éventuelles critiques que l'iPhone n'avait pas besoin d'app, que tout se ferait par le navigateur web, ce qui allait devenir le HTML5 comme tout ordinateur. Non seulement il a fait exactement l'inverse, mais en plus depuis 10 ans, le navigateur Safari a accumulé un retard considérable sur le support des API universels, pour justement pousser vers les apps natives, forcément payantes, et qui représentent une part importante des bénéfices d'Apple. Sûrement le denier du culte. Amen.
Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges, emmêlés comme des nœuds, et mon cœur, est-ce que t'y songes? Tu dis que la lune brille en bleu et que les mers sont asséchées. T'inventes tout ce que tu peux et je dois croire que tu veux m'aimer.
Pomme, je suis pas dupe.
Pas dupe, et même les fleurs de ma jupe s'envolent haut quand tu craches tes mots. connais des gens heureux, tellement loin de ces mensonges. Et tant pis pour l'amour, remballe tout et puis va-t'en. Tu reviendras un jour, dans 2 mois ou dans 1000 ans. Je suis pas dupe et même les fleurs de ma jupe.
Écoutez Radio FMR. Le 6 mars 2024, Apple doit se conformer à la directive européenne Digital Market Act et doit entraîner des changements assez radicaux sur sa plateforme iOS, notamment l'ouvrir à des magasins alternatifs d'applications, à d'autres navigateurs web et même accepter d'autres systèmes de paiement sans contact. Pour parler de l'économie des applis sur iPhone, on s'est adressé à des membres de la communauté iOS et plusieurs d'entre eux ont pointé de leurs événements UI Touch la même personne. Non mais il y en a un qui en parle vachement mieux que nous. Nous recevons donc sur dénonciation de ses pairs Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, co-organisateur de la communauté Swift Toulouse, administrateur de la communauté Slack Swift Baguette et gérant du bistrot des tramways, du moins son homonyme, à Dijon.
CPU carré petit utile.
Jérôme, quand t'es-tu mis à coder ?
Alors, ça remonte à très longtemps, avant même que j'ai un ordinateur, pour ainsi dire, parce que j'avais un ordinateur, vous savez, des petits jouets VTech, oui. Où il y a des jeux du pendu, des synonymes et tout ça. Et il y avait un jeu, moi j'appelais ça un jeu, qui s'appelait Basic dessus. Mmh. Et du coup, dans le petit fascicule, il y avait des petits cours de Basic, des GoTo et tout ça, et j'avais commencé à coder là-dessus. Et après, un peu plus tard, j'ai eu un ordinateur, j'ai continué en basique, après HTML, etc. Donc, j'ai commencé vers 8-9 ans et je me suis jamais arrêté.
C'était une implémentation de Microsoft Basic, l'une des plus légères que je connaisse d'ailleurs.
Quelle fut ta première réaction quand tu as découvert l'iPhone ?
Alors, j'étais déjà fanboy Apple depuis 1 ou 2 ans, je vais dire. Du coup, j'attendais cette keynote avec impatience et bon, j'ai pas été déçu. Hein, j'ai été des étoiles plein les yeux. J'étais au lycée le lendemain. Il y a que moi qui en parlais. Personne ne comprenait. Tout le monde disait ouais, bon, regarde, moi j'ai mon Windows Phone SPV 500 qui oui. fait déjà ça.
Le premier smartphone du nom, puisque c'était c'était Microsoft oui. qui avait introduit le terme justement smartphone par ce biais-là. Donc, c'est une belle brique. il s'est pris un coup de vieux avec une histoire de révolution en une nuit.
C'est un peu ça. La révolution a mis un peu plus de temps, mais c'est vrai que j'étais très enthousiaste. Oui.
Et depuis quand donc es-tu devenu développeur sur la plateforme iOS ?
Alors concrètement, j'ai commencé quand le SDK a été annoncé en 2008, donc une année après. Mais j'étais encore étudiant, donc au début, je faisais des petites applications pour m'amuser. Il y avait un cursus programmation Mac dans mon école d'une ou deux semaines, je sais plus trop. Donc j'avais commencé à faire du Cocoa et de Objective-C par ce biais-là. professionnellement, j'ai commencé fin 2010.
D'ailleurs, quels sont tes clients, directement le particulier ou tu es en prestation pour des entreprises?
Non, j'ai toujours été directement chez des éditeurs, à part ma première expérience où j'étais dans une ESN et je faisais beaucoup de projets au forfait. Mais sinon, j'ai toujours été en CDI, jamais fait de freelance.
Question putassière, est-ce que tu développes aussi pour les Mac?
Non. Non.
J'assume
non.
La blague.
J'en ai fait un petit peu pour des petits utilitaires pour moi, mais j'ai jamais fait pour.
Donc tu c'est jamais sorti jusqu'au niveau du demandeur et tout ça. Donc c'était t'es resté vraiment sur la plateforme mobile et associé quoi.
C'est ça.
Et du coup, tu as travaillé aussi sur l'embedded, par exemple sur l'Apple Car, sur l'iWatch ou sur l'Apple TV?
Non, même pas. Dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça a toujours été très iOS, iPad. Mais j'ai jamais eu affaire de Watch, de TV, encore moins de CarPlay.
Ça t'intéresserait à la limite d'essayer justement ces plateformes-là?
Ouais, c'est assez plus naturel de. D'exporter les apps là-dessus. Bon, ça n'a pas été sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, mais au moins, oui, un petit compagnon Apple Watch, c'est pas très compliqué à faire, je pense. C'est une extension, donc c'est intéressant. Après, c'est encore une fois l'utilité.
La place, puisque pour tester les Apple Car, il faut un grand parking à côté.
C'est ça.
Et justement, tu n'as pas justement développé vers Mac, justement, parce qu'on peut adapter des applications iOS sur Mac maintenant?
Oui, alors c'est assez limité. Par exemple, sur mes deux dernières expériences, juste avant, j'étais travaillé chez Itch, donc c'est une application de VTC, donc sur Mac, ça devient très limité. Et là, actuellement, je suis chez Datadog. Pareil, on a une web app très complète. La version iPhone, c'est plus pour les ingénieurs qui sont d'astreinte, donc qui ont besoin d'un accès. Sur le pouce, justement, avant de devoir sortir un laptop. Donc, pareil, le besoin n'est pas très intéressant sur Mac.
Du coup, est-ce que tu as une expérience sur l'autre plateforme, Android?
Pardon?
Est-ce que tu as une expérience sur l'autre? Ok, d'accord, j'ai compris.
Non. Blague à part, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup mes copains et collègues d'Android. Mais personnellement, je n'ai jamais tenté.
T'as pas osé aller chercher l'Android Studio et de faire un petit truc quand même?
Non. J'ai dû le faire une fois par curiosité, mais même si c'est des technos assez proches mais différentes, ça refait un peu partir de zéro. Et je suis bien sur mon expertise d'iOS.
Ce qui veut dire que du coup, tu ne travailles pas sur React Native pour faire du cross-platform, d'accord?
Non.
Alors actuellement, quelle est la procédure pour proposer une application dans l'App Store? Je suis développeur, débutant sur cette plateforme. On m'a demandé de faire une application pour iPhone. Comment je me démerde?
Alors déjà, il faut avoir un compte développeur Apple qui coûte 99$ par an, qui permet d'accéder aux outils d'Apple, donc Xcode, la documentation, tout ça, et de pouvoir notamment compiler sur device. On peut faire sans cet abonnement, mais on peut pas compiler sur device, et on peut encore moins exporter sur l'App Store. Voilà. Et après, donc il faut soumettre l'application à l'App Store, à la validation d'Apple sur l'App Store. Donc, c'est un process qui prend un à deux jours, quand tout va bien, et voilà.
Justement, l'Apple est connu pour faire des décisions de refus d'application parfois pénibles, pour rendre son App Store. As-tu des exemples, justement?
Alors, des exemples personnels, non. Peut-être les seuls refus que j'ai eus, c'était sur des mises à jour et c'était sur un manque d'informations, et en général, en répondant, rajouter une petite vidéo qui explique le fonctionnement de telle nouvelle fonctionnalité, ça passe. Non, les refus d'application, c'est les plus connus. Je crois qu'on va en parler un petit peu après, mais c'est les jeux. Il y a eu notamment le jeu Fortnite d'Epic qui a voulu proposer un système de paiement alternatif, donc qui allait à l'encontre des guild hands d'Apple de l'époque. Donc ça fait partie des refus plus connus. Après, il y a eu d'autres refus. Je sais qu'à une époque, une mise à jour d'Uber avait été refusée. Je sais plus exactement les détails. Mais
je crois que c'était pour le paiement dans l'app aussi.
Ouais, c'était peut-être pour ça. Ou peut-être je crois que des problèmes de privacy aussi, parce que l'application d'Uber traquait beaucoup de données, ça plaisait pas trop à Apple aussi.
Ouais, ouais.
Non, voilà. Mais sinon, après, des fois, il y a des refus beaucoup plus simples. C'est l'application qui sert à rien. Voilà. Donc, Apple.
I'm rich.
Le droit de dire. Alors, il y a ça, mais il y a même en disant oui, il y a déjà plein d'applications qui font ça. Votre application n'apporte rien de nouveau. On n'en veut pas. Récemment, il y a eu aussi des applications de Hey, Hey.com. Donc, c'est une application de mail, une application de calendrier où on est obligé d'avoir un compte Hey pour se connecter. Sauf que l'application ne propose aucun moyen de créer un compte. Il faut passer par le web et s'abonner via le web. Et du coup, l'application, elle ne sert absolument à rien si on n'a pas déjà un compte Hey. Et pareil, ça ne plaît pas à Apple. Et d'ailleurs, pour l'application calendrier qui vient d'ouvrir, ils ont rajouté du coup un mode Apple Tribute dans le calendrier. Donc, quand on n'a pas de compte, on peut explorer le passé d'Apple, les événements marquants d'Apple dans leur interface de calendrier.
Très soft.
Et c'est passé. Ouais. Et c'est passé, du
ça,
coup.
Ça reste soft, comme voilà. Manière de dire on n'est pas d'accord sur le fait de passer par votre système de paiement.
Ça a duré plusieurs semaines quand même d'aller-retour. Parce que concrètement, il y a une guidelines dans les guidelines d'Apple qui dit que si on se connecte à un service pro externe, type Slack, Teams ou ce
genre
de choses.
Oui, il faut fournir un compte de test, je crois, un truc comme ça, non ?
Il y a le fait de fournir un compte de test, mais il y a aussi le fait d'autoriser l'accès à un service pro. Mais dans le cas de Hey, ça plaisait pas trop parce que c'est pas techniquement un compte pro. Ils essayaient de passer, mais bon, moi, je suis plutôt du côté de Hey de ce côté-là, mais c'est marrant de la façon dont ils ont résolu l'affaire.
Jérôme, tu ne bouges pas, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver un chargeur Lightning, chose que je n'ai pas dans mon data center.
J'ai.
Ghost, April, extrait de la compilation Bar en Trance 2015. Radio Éphémère, CCPU, l'émission K Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, pour parler de ce qui change dans le monde des portables d'Apple. Avant leur conformation au DMA, au Digital Market Act, donc qui arrive courant mars 2024, à combien marge Apple à l'achat de l'app ?
La marge historique est de 30% à l'achat de l'application. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Quand tous ces problèmes ont commencé à éclore, ils ont rajouté un palier pour ce qu'ils appellent les small business, donc pour les business qui génèrent moins d'un million de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises. Et dans ce cas, la marge est de 15%. Et pareil, je crois qu'il y a une exception aussi pour les achats in-app passés la première année, où ça passe de 30% à 15%, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est 30% ou 15% selon les cas.
D'accord. Mmh.
Et dans les achats in-app eux-mêmes, quand on propose, je ne sais pas, une DLC, une extension, un changement de forfait ?
Les achats in-app, tout ce qui passe par App Store, c'est pareil, donc 30 ou 15%. Les seules choses qui ne sont pas concernées, c'est quand c'est soit de l'achat de biens physiques, type Amazon, ce genre de choses, ou de services non liés à l'application, donc typiquement une course Uber, une course de VTC, où là, Apple ne prend pas de commission. Mais sur les achats in-app, sinon, c'est sur les achats et sur les abonnements, c'est du 30 à 15%.
Ok, donc 30% pour l'achat de donuts sur le jus Simpson, par exemple.
Oui, voilà.
Ou les croquettes du chat qui râlent pas mal derrière.
A-t-on une idée de ce que rapporte Apple la vente d'app sur leur plateforme par rapport à leur chiffre d'affaires ?
Alors, c'est un peu compliqué de savoir exactement, puisque dans leur rapport financier, ils englobent ça dans une catégorie service, qui inclut les ventes d'apps, les services type iCloud, Apple Music, Apple TV. Ça englobe un peu tous les services qu'ils offrent, et donc c'est un peu compliqué. Régulièrement, ils communiquent plutôt dans l'autre sens. L'argent qu'ils ont redistribué aux développeurs, c'est ils se prennent pas une commission, ils redistribuent l'argent.
Et on a une idée justement de la somme redistribuée annuellement, ce que ça représente en CA.
Là, je pense que il y a pas de chiffre depuis de nombreuses années.
Ah bon ?
Oh, mais c'est pas étonnant.
Pas content de cette marge qui est imposée, Epic avait tenté de filouter en créant un magasin parallèle dans leur jeu Fortnite pour les achats in-app, ce qu'on appelle les DLC ou encore les attrape Gogo, ce qui leur a valu une exclusion de l'App Store d'Apple en 2020. Epic est parti dans un procès forcément épique face à Apple à propos de son App Store. Alors, toi, en tant que développeur, en tant que spécialiste, en tant que fan de cœur d'Apple, t'en as pensé quoi ? Pas trop tôt, ou c'est quoi ces jaloux, ou encore pourquoi n'ont-ils pas fait comme Netflix ?
C'est-à-dire comme Netflix.
Netflix, c'est-à-dire que tu peux pas t'abonner en fait depuis l'app Apple. Ouais. Tu peux sur Android, mais tu peux pas sur iOS.
Dans le cas de Fortnite, c'est compliqué parce que c'est de l'achat de consommables. Donc oui, après ils auraient pu faire ça.
Tu peux faire avec la saison de passe, par exemple.
Oui, c'est oui. Non, mais il y a toujours des solutions. Mais s'ils font pas, c'est qu'ils sont perdants aussi de pas le proposer au bon moment de l'expérience de jeu. Quand la personne a vraiment besoin d'un pack supplémentaire. En ce qui concerne le procès, ce que j'en ai pensé. J'étais un peu au milieu, parce que d'un côté, je comprends un peu les contraintes. Enfin, je suis assez satisfait des contraintes d'Apple sur le plan technique, de la sécurité, etc. Après, c'est vrai que le côté monopole vous impose un peu trop facilement leurs règles. C'est quelque chose qui est pas très sain non plus. Moi, j'ai un peu peur des répercussions que pouvait avoir ce procès, dans le sens où quand des personnes qui n'y connaissent rien viennent légiférer un domaine auquel ils ne connaissent rien, ça peut conduire à des règles un peu bizarres.
C'est un grand classique dans l'informatique.
Oui, hein. Oui.
Après, je pense que Epic a raison de défendre son point de vue et Apple a raison de défendre le sien. Moi, je compare souvent ça au système de distribution. Dans le monde physique, une grande surface est libre de fixer son prix et ses marges sur ce qui est vendu. Et souvent, c'est plus de 30%. La seule différence, c'est que on peut distribuer dans plusieurs magasins différents. On n'est pas limité à un type de magasin. Donc, je suis plus content du système d'App Store alternatif, qui permet peut-être de maintenir une sécurité. Mais voilà, quoi. Le side-loading pur et dur, comme il y a sur Android, où on peut télécharger n'importe quoi sur n'importe quel site, j'aurais pas trop aimé ça.
C'est pas tant pratiqué que ça, hein, honnêtement. Sur
ouais,
Android.
Mais c'est sur le plan de la sécurité, c'est assez mauvais, je pense. Mais voilà. Donc voilà, j'ai suivi l'affaire de pas trop près, mais voilà, j'ai suivi parce que c'était, il y a eu quand même des révélations assez intéressantes.
Ben justement, sur la plainte entre Epic et Apple, on a eu, c'est un méga procès à l'américaine, et parmi les pièces à conviction exposées, il y avait justement les boîtes mail professionnelles. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil et est-ce qu'on a appris des choses?
Ça remonte un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil, voilà, je l'ai vu passer sur des sites d'actualité.
Mmh. Et du coup, le réflexe, c'est chercher le pop-corn ou non?
Ouais, c'est un peu ça. C'est assez marrant de voir les mails qui s'échangeaient dans les directions d'Apple, notamment assez tôt, où ils se posaient la question de est-ce qu'ils allaient vraiment garder la marge à 30% éternellement, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, je pense pas que ça pourrait être tenable. Donc on voit qu'ils ont quand même réfléchi à la chose assez tôt historiquement. Mais non, après ça a permis de mettre en lumière certaines pratiques. Donc je trouve ça quand même bien au final pour les développeurs.
Je tiens à signaler d'ailleurs que c'est une obligation de présenter justement les emails, les boîtes à emails et tout ça, que les boîtes aux États-Unis n'y échappent pas vraiment dans ce type de procès, sur les procès économiques, et que en général ce n'est pas des leaks. C'est que c'est comme c'est envoyé aux avocats des deux parties, plus exactement, c'est un avocat qui l'envoie au procureur, au juge et à la partie adverse où le procureur en profite pour le ressortir. Le jugement a été rendu en avril 2023, justement, entre Epic et Apple, mais en octobre, Epic a promis un deuxième round devant la Cour suprême américaine et certains prédisent un détournement de la loi RICO contre les pratiques mafieuses. Alors pour toi, là encore, popcorn ou tarte aux pommes?
Ouais, à ce niveau-là, ça devient tarte aux pommes, puisque c'est, je pense pas qu'on ait des révélations nouvelles. L'issue sera peut-être différente. Ça, je me prononce pas là-dessus, mais je pense pas qu'on ait de nouvelles choses intéressantes à se mettre sous la dent.
Popcorn ou tarte aux pommes n'est pas une nouvelle catégorie du Burger Quiz.
Bon, c'était quoi? Bon, c'était quoi la crainte d'Epic? Que le principe d'un magasin logiciel en monopole s'étendent aussi au Mac et par effet d'aspiration à Windows 11 ?
Je pense pas, honnêtement. Je vois mal le Mac adopter un système comme iOS où il y a un magasin unique comme source de téléchargement.
Honnêtement, c'est vraiment une crainte que l'on a quand on discute avec des journalistes professionnels dans le secteur informatique. Ils disent tous, on y va avec la convergence iOS.
Moi, j'y crois pas. En fait, j'ai toujours trouvé la démarche d'Apple assez prudente, où Apple a été très fermé au début, et c'est plus facile de partir d'un système extrêmement fermé et de l'ouvrir petit à petit, plutôt que de faire ce qu'a fait par exemple Google avec Android, où c'était très ouvert au début et où ils ont dû fermer un petit à petit pour défendre leur business ou des problèmes de sécurité, etc. Ouvrir iOS, c'est plus facile que de fermer le Mac. Fermer complètement le Mac, je pense pas que ce soit possible et ça sera pas accepté. Et et puis de toute façon, vu ce qui se passe sur iOS, je pense pas qu'ils s'aventurent à faire ça sur le Mac. Ils ont par contre profité de certaines technologies et idées pour porter cet écosystème sur le Mac. Côté sécurité, il y a quand même le sandboxing, la notarisation, ce genre de choses qui ferment un tout petit peu, mais pas trop non plus. Mais que ce soit le seul moyen de télécharger, honnêtement, je ne pense pas que ça viendra un jour.
On marque une pause, parce que sinon on approche un peu trop vite du point Godwin, et ce serait dommage, il nous reste encore 20 minutes d'émission facile. Light, Apple Juice Kissing. Écoutez Radio Éphémère. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, pour parler d'un petit peu de ce qui est en train de réformer dans l'église d'Apple en Europe.
Suite à l'entrée en vigueur de plusieurs jugements et mesures législatives dans le Digital Market Act en Europe, Apple s'est ouvert, mais à des conditions très limitées. Apple a prévu une certification des applications hors App Store afin de protéger les utilisateurs. Est-ce une mesure de protection bienvenue pour les développeurs et les utilisateurs ?
Effectivement, ils ont, on va dire, ouvert la voie aux applications hors App Store pour se conformer à cette nouvelle mesure. Est-ce que la mesure est bienvenue ? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le savoir. Des réactions que j'ai vues un peu à droite à gauche, c'est que c'est pas exceptionnel comme condition parce que c'est quand même, ça reste assez limité d'un point de vue installation. En fait, il faut que l'app, ça peut passer que par un App Store autorisé par Apple. Et c'est des conditions assez assez importantes. Je crois qu'il faut justifier d'un million de dollars sur un compte pour avoir le droit d'ouvrir un App Store. Donc, par exemple, moi, je peux pas ouvrir un App Store pour les applications françaises, par exemple, parce que je n'ai pas un million de dollars sur un compte. Mais donc voilà, c'est assez limité. Donc, à voir ce qui est proposé. Je crois que Steam et Microsoft sont déjà sur le coup pour préparer leur App Store. Ça peut servir, justement, on a parlé tout à l'heure, aux applications qui ont été refusées pour une raison X ou Y de proposer leur application sur un autre App Store. Mmh.
Est-ce que justement cette certification, ben justement, est-ce qu'elle apporte la même sécurité que si on était sur le store d'Apple ?
Sécurité, non, puisque techniquement, du coup, il y a plus la review d'Apple. En fait, il y a deux choses. Il y a sécurité sur le plan technique et sécurité sur le plan tout ce qui est scam, phishing et ce genre de choses. Donc même si c'est pas parfait sur l'App Store aujourd'hui. Apple est quand même assez essaie d'être assez regardant sur ce côté-là. Là où une application qui passera par une App Store alternative sera notarisée, donc c'est-à-dire qu'elle sera quand même certifiée par Apple et elle pourra être désactivée à distance si par exemple Apple s'aperçoit que ce compte Apple est frauduleux. Mais sur le contenu de l'application, ça sera pas aussi contrôlé. Moi, je me pose par exemple la question de tout ce qui est utilisation des API privées. Mmh. Aujourd'hui, Apple, quand on soumet une application à l'App Store, ils ont des mécanismes pour tester l'utilisation d'API privées au sein d'un exécutable. Je me demande comment ça va fonctionner sur les App Store alternatifs qui, du coup, n'auront peut-être pas cette vérification. Donc, ça peut permettre... par exemple de venir, alors je sais pas du tout, là c'est des suppositions, mais peut-être trouver des moyens d'accéder au micro ou ce genre de choses sans passer par la validation d'Apple via des API privées. Donc ça, je sais pas encore comment ce que ça va ouvrir de ce côté-là.
Apple change sa commission pour les applications sur l'App Store. Est-ce que la nouvelle grille tarifaire est plus intéressante?
C'est pas tant qu'il la change, c'est qu'il propose deux systèmes. Donc soit on reste sur le système, on va dire historique, donc à 30%, soit on peut opter pour les nouvelles conditions qui permettent de distribuer son application en dehors de l'App Store, qui permettent de faire payer en dehors de l'App Store. Mais même si on le fait payer en dehors de l'App Store, on peut continuer d'avoir une version sur l'App Store. Et effectivement, là, les conditions passent de 30 à 20% pour les achats in-app et pour le prix de l'application. Et passer 1 million de téléchargements, chaque nouveau téléchargement sera facturé 50 centimes. Il se peut que les éditeurs répercutent ce coût sur les utilisateurs. Donc, il y aura moins d'applications gratuites. C'est pas forcément intéressant pour les gros éditeurs qui ont plus de 1 million de téléchargements, car du coup il y a ces 50 centimes qui viennent impacter les revenus.
Aussi, Apple sera aussi obligé d'autoriser d'autres solutions de paiement dans l'achat d'applications, mais également avec le NFC. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, j'ai vu ça. Ils sont obligés d'ouvrir l'utilisation du NFC. Je ne sais pas encore les situations qui vont être faites. Je pense que ça va permettre d'avoir des solutions comme Google Pay en plus d'Apple Pay ou de pouvoir utiliser les
Paylib.
oui, peut-être Paylib. À voir.
Et je pensais également les sociétés de transport comme TCO, la ouais. RATP ou la RTM qui pourraient utiliser justement le NFC des iPhones comme ils le font avec Android pour leur propre ticket.
Oui, c'est possible. Après, je ne sais pas encore une fois si... parce que techniquement, il y a déjà une petite ouverture du NFC, mais il faut être dans l'application, il faut passer par une pop-up explicite. Mm. Là, je ne sais pas si ça concerne le fait de pouvoir badger n'importe quel tag NFC sans avoir aucune confirmation à l'UI. Donc, il n'y a pas trop de détails encore, il me semble, sur cette partie-là.
Numérama a écrit que Apple a fabriqué un système pour faire fuir la plupart des développeurs. Est-ce que tu trouves le terme un peu fort ? Fuir ?
Alors, je pense qu'Apple a fabriqué un système pour que les développeurs ne choisissent pas la nouvelle réglementation et restent sur la réglementation historique. Mmh. Puisqu'encore une fois, le choix reste possible sur les développeurs de rester sur le système historique, donc tout dans l'App Store, 30% puis 15%, aux mêmes règles qu'aujourd'hui. Et je pense qu'Apple, on parlait des réglementations un petit peu un petit peu bêtes qui peuvent être faites en informatique. Mmh. Je pense que Apple s'est conformé bêtement à cette réglementation. Ça permet de mettre aussi en lumière un peu les incohérences qui peuvent y avoir. C'est un pari. Je pense qu'ils ont essayé de montrer que à l'état, c'était pas quelque chose de très intéressant pour les développeurs et les utilisateurs. C'est plus pour que les développeurs ne choisissent pas le nouveau système plutôt que de faire fuir les développeurs. Mmh. Puisque s'ils avaient dû fuir, ils auraient déjà fui la plateforme s'ils trouvaient les conditions vraiment inintéressantes. Mmh.
Le fait qu'Apple tente de répondre de manière très restreinte à ces exigences légales, est-ce que ça risque pas de braquer les développeurs qui auraient pu amener des logiciels stars ultra attendus pour le casque Apple Vision Pro qui commence à être vendu aux États-Unis? Que serait ce casque VR sans aucun studio majeur de jeux vidéo?
Alors, c'est une bonne question.
On n'a que des bonnes questions.
c'est vrai.
C'est un running gag, tous les invités nous le disent.
C'est intéressant parce que si on regarde la communication d'Apple sur le Apple Vision Pro, elle est finalement très peu axée sur le jeu vidéo.
Oui, il parle surtout de casques de réalité augmentée, en clair.
Même pas, ils parlent de spatial computing. Voilà, c'est leur terme, c'est le spatial computing, c'est l'ordinateur spatial. Ils parlent nulle part de réalité augmentée, de réalité mixte, de réalité virtuelle. Ils parlent d'ordinateur, ils mettent en avant des applications Safari, Mail. Là, il y a Microsoft qui a sorti Word sur
Excel et Word sous les yeux, c'est génial.
C'est ça. C'est un outil de. Ils présentent ça comme un outil de travail et pas un outil de jeu vidéo. Et d'ailleurs, quand on voit souvent des personnes qui jouent dans ces genres de jeux vidéo, qui oublient l'environnement qu'il y a autour et qui s'éclatent la tête contre un mur parce qu'ils sont dans un... Donc, je pense que Apple fait peut-être bien de restreindre là-dessus pour éviter de la mauvaise pub avec des casques qui s'éclatent contre des murs. Donc, je pense que ça n'a pas forcément braqué les développeurs de jeux vidéo qui ne seront pas trop intéressés par l'Apple Vision Pro dans un premier temps. On a vu que YouTube... et Netflix n'avait pas sorti d'application pour l'Apple Vision Pro. Ils sont même allés plus loin que ça, c'est qu'ils ont opt-out, ils ont désactivé l'option de portabilité automatique de l'application iPad sur l'Apple Vision Pro.
Oui, parce que effectivement, n'importe quelle application sur iPad normalement est disponible dans l'Apple Vision.
Voilà.
C'était je sais plus quel Marquis, là j'ai oublié son nom, ce YouTuber techno. Anglais qui a dit en fait il manque une application de cartographie et trucs comme ça, donc on peut soit par la vue web, soit par la vue iPad, mais il manque beaucoup de trucs quoi.
C'est ça, donc du coup
donc eux ils ont carrément désactivé l'intégration de l'app iPad. Ok.
C'est ça, donc ils développent pas une application dédiée à Netflix ou à YouTube parce que le marché est encore tout petit, c'est compréhensible, qui désactive l'intégration iPad, soit ça marchait pas bien, et du coup, il y avait des coûts pour le faire bien marcher, soit c'est plus politique pour dire on veut pas en être, et voilà. Donc là-dessus, c'est un peu à la supposition de chacun.
Toujours sur l'impact de la mise en place du Digital Market Act, parlons du navigateur Safari.
Non, Dascritch, non, on n'a pas le temps, on sait qu'il n'est pas top et...
Bah oui, justement, maintenant que Chrome, Firefox et les autres vont vraiment pouvoir porter leur navigateur sur iOS, et pas uniquement le navigateur, mais aussi leur moteur...
Mais ils sont déjà présents.
Oui, mais avec le moteur de rendu de WebKit, qui entre nous est une sacrée bouse. Maintenant, ils vont pouvoir utiliser leur propre moteur Chromium ou Gecko. À savoir si des versions sont disponibles hors Europe, du coup, de ces navigateurs. On voit que Safari, d'ailleurs, commence enfin à corriger des bugs qui sont ouverts depuis plus de 10 ans et qui faisaient hurler les devs sur la conformité des API standards. Donc, l'ouverture, en soi, c'est une bonne chose.
Alors, oui, l'ouverture est une bonne chose. Après, à voir ce qu'il y en est fait. Dans tous les cas, ça reste une ouverture assez maîtrisée. Je pense pas qu'on puisse facilement intégrer...
Il y a beaucoup de chaînes sur la porte.
Oui. Non, mais c'est... Je sais pas trop comment ça va être présenté, mais c'est... Bon, on va dire que c'est une bonne chose. On verra, les utilisateurs choisiront.
Et Next Impact, qui avait fait un édito d'ailleurs, c'est Numérama, je ne sais plus lequel, qui disait qu'en fait, le problème, c'est savoir si les navigateurs vont exister. S'ils n'existent que pour l'Europe, le portage ne va peut-être pas se faire. Firefox tourne en natif sur iOS, mais effectivement uniquement en mode de dev depuis plus de 10 ans. Et le rendu est extrêmement différent du rendu Safari, et il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Jérôme, je crois savoir que le 15 mars 2024, donc un mois après qu'on enregistre, tu quittes ton employeur pour devenir indépendant et créer tes propres applications. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Vous savez bien. Donc effectivement, presque 15 ans de développement, à développer des applications des autres, je me lance enfin dans l'aventure de développer mes propres applications. J'ai jamais été trop impliqué sur des side projects ou ce genre de choses, parce que j'aime bien vraiment pouvoir m'impliquer à fond dans les projets. Et donc voilà, donc je tente l'aventure où je quitte complètement mon travail pour me lancer à plein temps sur des applications. Donc, vous l'aurez compris, ce sera du iOS, du natif, de l'App Store, de la Shine App Store et de l'écosystème Apple. parce que quand on est petit dev, c'est quand même assez pratique d'avoir tout ça à la disposition. Et facile à intégrer, mais qui sait, peut-être un jour je ferai mon App Store alternatif avec des applications en App Store.
Et donc Jérôme, mille merci. En plus, on te retrouve dans la communauté Swift, donc le langage de développement qui a pris la suite, justement, puisqu'on a parlé en tout début d'Objective-C, sur la plateforme iOS et aussi sur d'autres plateformes. On le trouve aussi sur Mac, bien évidemment, et aussi sur des portages sur l'environnement Windows, Linux, Android et j'en passe. Jérôme, mille merci de ta disponibilité.
Merci pour l'invitation.
Et bien à toi et au plaisir de se revoir. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Paranoïde Android, EX220, ouvrir la pomme. Cette release, l'équipe est composée de InfoSec Grunt, Chief Cider Officer, Duskreach, Chief Marmalade Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sons sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/220. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR, le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle va parler de la gravitation universelle et du rapport avec la tarte aux pommes d'Isaac Newton. Ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.